Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Devant le vieillissement et la baisse de la fréquentation des cultes luthéro-réformés, on peut se désoler ou bien chercher d'autres formes de pratiques cultuelles. C'est cette dernière position qui se fait jour en Allemagne et aussi en Angleterre et dont nous allons parler avec mon invité, Anne Lepère, pasteur en Allemagne, qui dirige le département du bénévolat et des nouvelles formes d'église. Alors, bonjour Anne.
Bonjour Yolande.
Alors, le constat, quel est-il en Allemagne au niveau de la fréquentation dans les églises protestantes ?
Le constat en Allemagne est à peu près le même que partout en Europe. Nous voyons qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent au culte. Et en Allemagne, on peut quitter l'église parce que lorsqu'on est membre de l'église, on paye des impôts d'église, on peut la quitter. Et ce que nous avons vu, c'est que désormais, nous sommes moins de 50% de la population allemande qui appartient à une grande église, que ce soit une église protestante ou une église catholique.
Et alors, donc, cette baisse, vous avez décidé de vous tourner vers de nouveaux modes et vous êtes inspiré d'une expérience anglaise qui s'appelle Fresh X, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça s'appelle Fresh X. Ça veut dire que c'est en fait une nouvelle forme d'église. L'église anglicane est très en avance là-dessus. Ça fait plus de 15 ans qu'ils font ce programme-là. En fait, ils envoient des petits groupes à partir de leur paroisse existante. Ils envoient des petits groupes dans les quartiers, dans les cafés, dans les jardins, un peu partout, pour créer des petites communautés d'églises. En général, elles sont pas très grandes, elles ont, je sais pas, 50, 60 personnes. Et ils s'aiment là et ils essaient de vivre leur foi de manière différente et d'annoncer la parole de Dieu ailleurs que dans les temples ou dans les églises.
Et alors, ils appellent ça des « messy church » que l'on a traduit « église de bazar ». J'emploierai pas le mot qu'on a employé toutes les deux pour parler de bazar, parce que ici on tient à un langage châtié. Alors, messy church, ça veut dire qu'on revendique le fait d'avoir des églises de bazar, enfin chaotiques.
Alors oui, effectivement, le concept de messy church, en fait, ce sont des cultes de famille, on va dire ça comme ça. Et ce qu'ils font en Angleterre, mais c'est ce que nous faisons aussi en Allemagne, c'est qu'ils invitent pour un culte de famille, ils invitent les enfants, les parents, les grands-parents, les parents-marraines, les oncles et tantes, enfin tous ceux qui veulent venir. Ils enlèvent les bancs ou les chaises de l'église et ils font dans cette église un joyeux bazar. C'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs animations pour les enfants où les familles peuvent se déplacer d'une animation à l'autre, ce qui fait que tout le monde parle, tout le monde crie, les enfants peuvent courir, peuvent sauter. C'est un joyeux bazar. Mais dans ce bazar, les enfants découvrent aussi des histoires bibliques, font du bricolage, font des mimes. Et à la fin, tout le monde se rassemble pour un culte très joyeux, où on danse, où on chante, où on prie, où on fait des théâtres d'ombre, de mimes. Et c'est pour ça que cette église en anglais s'appelle Messy Church, parce que c'est vrai que c'est un sacré bazar dans cette église. Rien de calme, rien de doux, rien de posé. Tout ce qui se fait, en fait, comme les enfants vivent normalement.
Et ça a du succès. Vous parlez des grands-parents. Les grands-parents reviennent dans ce style de culte.
Oui, les grands-parents viennent. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ne vont pas revenir dans d'autres formes de culte. S'ils viennent au culte, c'est dans ce genre de culte-là, parce que c'est aussi des cultes qui leur conviennent, dans le sens où ils ne sont pas obligés de se tenir assis et d'écouter de longues prédications. Il y a aussi plein de grands-parents qui n'ont plus envie de cela. Et puis, on donne aussi des messages qui sont très basiques. On commence avec les bases de la foi. Et on se rend compte qu'en Allemagne aussi, il y a beaucoup de parents et de grands-parents qui n'y connaissent plus rien du tout en termes de la foi chrétienne. Et donc, c'est pour ça qu'on distribue là de la parole très basique avec le début, le béaba de la foi, de l'évangile, de ce qui se trouve dans les évangiles, etc.
Et alors donc, vous faites ça, vous avez aussi organisé ce genre de choses ou pas encore, ces messy cultes, enfin ces messy church?
Alors moi, personnellement, je n'en ai jamais fait, j'ai déjà assisté à ce genre de culte. Ce que nous faisons au niveau de l'Église, c'est que nous faisons des voyages pour s'inspirer de ce qui se passe. Et donc, je suis allée... Lors d'un de ces voyages, je suis allée aider un groupe qui fait ce genre de culte. Ils en font à peu près 6 ou 8 par an. Et donc, on est allé aider. En fait, on est devenus des bénévoles. on les a aidés à déménager toute l'église, à installer toute l'église et ensuite à tout ranger. Et on les a aussi aidés pendant les différentes animations du culte. Mais c'était une immense église où il y a à peu près 600 places dedans et il y avait plus de 200 personnes qui sont venues pour ce culte-là. Et ce culte-là, ça dure 3 heures de temps parce qu'évidemment, le temps que tout le monde arrive, le temps qu'on fasse toutes les animations pour les enfants, le temps qu'on fasse le culte et après, on mange tous ensemble.
Et alors, vous faites, vous, spécifiquement, vous avez inventé, vous avez retrouvé, vous avez créé des formes mobiles. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre des gens.
Oui, ça c'est la peine. Alors là aussi, j'ai mis sur pied une journée d'inspiration avec des collègues pour ce qu'on appelle les formes mobiles d'église, c'est-à-dire tout ce qui se trouve avec des roues. Je sais qu'en France, il y a aussi maintenant ces vélos qui sont arrivés avec ces espèces de vélos cargo où on peut transporter ses enfants devant, par exemple. Eh bien, en Allemagne, ça fait longtemps que ça se fait et on peut aussi transformer ces vélos en cuisine où on a sur la roue avant, on construit une cuisine et avec ça, on se promène dans la ville et on peut faire des animations. Donc, par exemple, en hiver, on va faire des soupes et on va les distribuer aux passants et on va clairement dire qu'on est de l'Église et on va inviter les gens à discuter de leur foi. Par exemple, en période de Noël, ça se fait beaucoup. On a aussi des cabanes de bergers qui peuvent se transformer dans les champs. Et alors, avec ça, on les tire avec la voiture et on va dans les campagnes, dans les montagnes où il n'y a quasiment plus d'église ou bien il n'y a pas de bâtiment ecclésiaux. Et alors, on se transporte là et on va faire des cultes en plein air avec ces cabanes de bergers, par exemple.
Et vous faites aussi, vous allez sur les ronds-points d'autoroute, vous allez vraiment à la rencontre des gens et vous leur proposez aussi de nouvelles formes. Il n'y a pas que la localisation qui change, mais il y a aussi des nouvelles formes. Vous avez déjà parlé de phrases courtes, de messages très clairs, très basiques, et vous avez aussi donc cette façon de proposer des choses sur les aires d'autoroute, partout. Vous pouvez nous en parler, par exemple, de ces formules de bénédiction, de ces possibilités de demander des bénédictions.
Oui, avec plaisir. Alors, vous avez dit qu'on était sur les ronds-points d'autoroute. Je voudrais juste préciser qu'en Allemagne, on n'a pas de ronds-points sur les autoroutes. Pas que vos auditeurs, tout d'un coup, se disent wow, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose? Mais effectivement, on va aussi sur des aires d'autoroute. On a fait ça, par exemple, l'année passée, lors du premier grand week-end des vacances d'été. En Allemagne, il est évident que tout le monde va partir, enfin non, beaucoup de personnes vont partir vers le sud. Et donc, on s'est mis sur l'autoroute A5 pour tous les gens qui partent en direction de l'Italie ou même de la France, sur une aire d'autoroute où il n'y a rien à part des toilettes et puis une petite place de jeu. On s'est mis là avec des bénévoles, des pasteurs et des diacres. On avait de quoi offrir le café, de quoi offrir des boissons fraîches et on a proposé aux gens qui partaient en vacances de les bénir sur le chemin de leurs vacances. Alors, on pouvait les bénir de différentes manières. On pouvait les bénir soit en leur donnant tout simplement une carte postale avec dessus des paroles de bénédiction. On pouvait les bénir en leur donnant quelque chose qui se suspend, comme on suspend des sapins odorants dans les voitures avec un verset de bénédiction là-dessus. On pouvait leur donner des bracelets où c'était marqué une bénédiction. Et puis, pour celles et ceux qui avaient envie, on pouvait vraiment les bénir comme on bénit les gens dans les églises à une bénédiction avec nos mains et prononcer une parole de bénédiction sur eux. Et c'est quelque chose qui a été très, très bien accueilli par les gens qui partaient en vacances. On avait fait de la pub partout, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Il y a des gens qui sont venus exprès parce qu'ils sentaient ce besoin d'être bénis sur leur chemin. On sait qu'il peut y avoir des accidents, n'est-ce pas, quand on part sur la route, qui avaient ce besoin d'être bénis. Et les gens ont aussi beaucoup apprécié que l'Église soit là sans rien demander. On n'a pas demandé d'argent, on n'a rien vendu, on a juste donné. Ça, c'était une expérience pour les vacanciers qui était très positive. Et puis, si on rajoute pour les bénévoles et les pasteurs ou les diacres qui étaient là, c'était aussi une expérience très positive parce qu'ils se sont sentis utiles. Ils ont senti combien ils apportaient des choses qui faisaient du bien aux gens qui passaient. Et eux, ça leur a vraiment aussi fait du bien de se sentir utile et de voir, waouh, ce que je fais, ça a du sens.
Et vous faites aussi donc des bénédictions de gens qui ne veulent pas se marier. Vous faites des mariages sans mariage, d'une certaine façon, sans préparation, sans passer par l'état civil, sans… comment ça se passe? Les gens viennent vous voir, vous ne demandez rien et vous les bénissez?
Alors, ce qu'on organise, dans le fond, c'est un peu, je crois qu'en France, on en parlerait de drive-in. C'est comme si vous imaginez que vous allez dans une chaîne de fast-food et que vous commandez simplement votre repas, vous le recevez et vous repartez. Alors, c'est un peu gros comme comparaison, mais c'est pas tout à fait faux. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, par exemple, le 24 février 2024, vous voyez, il y a déjà un symbole, le 24-02-24, de 8h à 17h, vous venez dans telle église et en une heure, on peut vous marier. Alors, ça se passe comme ça. Les gens arrivent, ils s'inscrivent, ils choisissent un verset de mariage dans une liste qu'on leur a préparée, ils choisissent un chant qu'une personne en vrai va leur chanter. C'est pas de la musique sur CD, c'est pas de la musique d'orgue non plus, mais c'est plutôt quelqu'un à la guitare qui va leur chanter cette musique. Et ensuite, ils vont voir un pasteur pendant un quart d'heure. Les gens racontent pourquoi ils veulent se marier, pourquoi ils veulent une bénédiction de leur couple. Et puis ensuite, le pasteur a un quart d'heure pour se préparer. Et après, le couple a sa cérémonie de mariage qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, il y a encore évidemment un moment où ils peuvent boire une coupe de champagne, ils peuvent couper un mini gâteau de mariage et faire des photos qui vont avec. Alors en Allemagne, l'Église a le droit, mais comme en France en fait, de bénir des gens qui ne sont pas mariés civilement. Donc là, on a beaucoup de personnes qui viennent et qui effectivement ne sont pas mariées civilement et qui veulent quand même que leur couple soit béni et ils viennent à ce genre de cérémonie. Mais on a aussi des gens qui sont mariés civilement et qui n'ont pas fait de mariage à l'église, soit parce que ils ont malheureusement des familles avec lesquelles ils sont en conflit et qui se voient pas organiser une fête de famille, mais qui pour qui ça tient à cœur quand même d'avoir la bénédiction de Dieu. Donc on a des gens comme ça qui viennent. On a des gens aussi qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas se permettre de se payer une grosse fête de famille, et qui imaginent souvent, ah, mais si on se marie à l'église, il faut absolument faire un gros truc qui coûte cher. Et là, pour eux, c'est le moyen, finalement, d'avoir leur mariage religieux à l'église, avec leur jolie robe blanche, s'ils le souhaitent, mais ça leur coûte rien. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ça. Et puis, vous rajoutez aussi les gens qui sont divorcés une, deux ou trois fois, et qui se voient pas recommencer tout le toutim, et qui viennent juste pour se faire bénir.
Et c'est un peu ce que vous disiez par rapport à ce que vous donnez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de besoin de mettre de l'argent dans un mariage, dans une fête. Et ça me surprend, ça me bouleverse d'une certaine façon. Je trouve ça très beau. Et alors, mais la question que je me pose, c'est comment les membres traditionnels voient ça, parce que j'ai du mal à imaginer certains paroissiens français rentrer dans une telle logique. Est-ce que ça se passe toujours bien avec les paroissiens traditionnels, si on peut dire, s'il y en a des paroissiens traditionnels, je ne sais pas.
Alors, il y a des paroissiens traditionnels, effectivement, et effectivement, ce n'est pas toujours facile pour eux, parce que ça sort complètement de leur concept à eux et de leur manière à eux de vivre l'Église. Et en fait, le travail que nous faisons, qui est un travail de fond, c'est d'expliquer que l'Église doit devenir plurielle. Ce genre de choses que nous donnons aux gens, ce n'est pas fait pour les paroissiens traditionnels, ça c'est clair. Les paroissiens traditionnels, ils ont besoin de continuer d'avoir leur culte tout à fait normal, d'avoir leur cérémonie de mariage tout à fait normale. Ils ont besoin de garder la continuité qu'ils connaissent et qu'ils aiment, qu'ils apprécient et qui fait sens pour eux. Mais vous le voyez bien, autant en France qu'en Allemagne, on a de moins en moins de gens qui viennent de nos cultes et de nos cérémonies parce que ça ne correspond plus à ce dont les gens ont besoin. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle, en parallèle des activités traditionnelles, nous ouvrons de nouvelles activités pour d'autres personnes qui ont d'autres besoins. Et c'est ça qu'on explique à nos paroissiens traditionnels. On leur explique, vous n'avez pas besoin de venir là, on ne va pas faire rien que ça, on va continuer de faire du traditionnel, mais à côté, nous allons détacher des pasteurs et des diacres et des bénévoles qui vont aller voir les gens qui ne viennent plus à l'église. Parce qu'il ne faut pas oublier, quelle est notre mission en tant qu'église? Notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Et il n'y a pas qu'une seule manière d'annoncer la parole, tout comme il n'y a pas une seule manière de vivre sa foi. On peut la vivre de manière différente, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre en fait à nos paroissiens traditionnels. Mais c'est pas facile, ça c'est clair.
Et alors, j'ai envie de dire, vous n'avez peur de rien parce que vous distribuez des petits anges, vous distribuez des cartes avec des formules de bénédiction. Est-ce que c'est compatible avec le protestantisme, ça, cette simplification des messages? Est-ce que vous ne vous sentez pas en porte-à-faux?
Alors non, on ne se sent pas en porte-à-faux parce que nous essayons de faire passer le message chrétien d'abord de manière simple et audible par tous. Et ensuite, il est évident que nous proposons de l'approfondissement. Nous avons plusieurs cours d'approfondissement de la foi pour adultes qui se font aussi en ligne et qui sont clairement, alors ce ne sont pas des catéchismes pour adultes, mais ça y ressemble quand même beaucoup, où les gens vont pouvoir, s'ils sont intéressés par la foi, pouvoir approfondir la foi et donc aller plus loin. Mais imaginons les gens au temps de la Réformation, quand les gens ne savaient pas lire, on faisait des vitraux ou on imprimait des livres avec des images. Ce n'était pas très approfondi comme contenu de la foi. Les gens, ils voyaient d'abord les images et ils se faisaient eux-mêmes une image de la foi et ensuite, ils recevaient un enseignement plus approfondi s'ils étaient intéressés. Et dans le fond, c'est la même chose qu'on fait là. On part des basiques en proposant ensuite la possibilité d'approfondir sa foi ou d'approfondir ce qu'on a découvert.
Mais vous, en tant que pasteur, vous avez fait plusieurs années de théologie, je suppose. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, de ne pas utiliser vos connaissances, vos habitudes de débat, vos méthodologies, pour justement pour avoir des messages simples? Je suis très frappée par l'efficacité que vous donnez et je pense que les auditeurs, en seront très sensibles. Mais pour vous, est-ce que c'est pas un peu frustrant?
Alors, c'est exactement le contraire. C'est en fait toute notre formation théologique, toute notre formation exégétique, toute notre savoir sur les textes bibliques et sur les courants théologiques, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour arriver à faire passer un message clair et simple. Il est beaucoup plus facile, dans le fond, de faire une grande prédication avec une analyse de texte traditionnelle, que de prendre le même texte et d'essayer de l'expliquer à des gens qui n'ont jamais été en contact avec le christianisme et qui ne savent pas et qui ne comprennent pas ce que la foi peut nous apporter dans notre vie. Donc, en fait, on est encore plus demandé, enfin, nos compétences théologiques sont plus demandées quand on essaye de faire passer un message simple que quand on essaye de faire une prédication très exégétique avec une explication de texte comme on les connaît dans nos études bibliques. C'est plus compliqué à faire et donc c'est plus intéressant parce que ça nous oblige à aller chercher dans des ressources qu'on n'utilise pas souvent.
Oui, effectivement, c'est très logique ce que vous dites. Mais alors, comment vous faites pour faire passer un message chrétien en une phrase auprès de personnes qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont aucune base? Alors, on peut dire Dieu vous aime, mais à part ça.
Alors, on est dans une société de l'émotion. Si vous regardez ce qui marche bien sur Instagram ou TikTok ou des choses comme ça, ce sont des vidéos qui vont vous faire pleurer aux larmes, soit de rire, soit de tristesse ou soit d'émotion. C'est sûr que ça peut être aussi un défaut de cette manière de faire. On va beaucoup parler sur les émotions, mais sur les émotions aussi positives. Quand on bénit quelqu'un, quand on lui dit une parole positive sur sa vie ou sur ce qu'il est en train de vivre, on fait venir en lui des émotions qui sont positives. Et donc, on va commencer par travailler sur ce genre d'émotions parce que c'est là qu'on peut permettre aux gens de se dire, ah oui, effectivement, quand je reçois une bénédiction, je sens quelque chose en moi et je sens que ça peut me porter dans ma vie. Et c'est après qu'on va essayer de plus approfondir. C'est sûr que c'est difficile, ça peut sembler simplificateur au départ. Ça, je ne dis pas le contraire. C'est un peu le défaut. C'est un peu le défaut de cette méthode ou de cette manière de faire les choses qui correspond un peu à notre époque où on est beaucoup, en tout cas au départ, dans le superficiel et qu'il faut du temps pour que nous tous, nous arrivions dans la profondeur.
Vous ne donnez pas l'impression d'une superficialité. Vous êtes extrêmement convaincante et on sent tout un raisonnement théologique par derrière qui me frappe beaucoup par rapport justement à l'impression que j'aurais pu avoir au début. Donc, rassurez-vous, vous êtes tout à fait convaincante. Alors, ces cultes messies, donc bazar, c'est un peu comme les cultes dans les églises de migrants où l'on danse. Est-ce que vous avez des contacts aussi de ce côté-là ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des liens?
Pas autant que je voudrais, on va dire ça comme ça. Nous avons aussi beaucoup d'églises de migrants en Allemagne, Nous avons beaucoup de paroisses de migrants. Nous avons aussi des pasteurs qui sont eux-mêmes migrants et qui travaillent pour l'église du Pays de Bade dans ces paroisses de migrants. Mais il nous manque effectivement, de mon point de vue, ce rapport les uns aux autres pour qu'on puisse s'enrichir. Ce qui est tout nouveau, par contre, et ce dont je me réjouis particulièrement, c'est que la direction d'église a mis en place des pastorales pour les pasteurs migrants, les pasteurs venant de l'étranger, dont je fais partie, puisque dans le fond, à la base, je suis suisse et que j'ai travaillé pendant 15 ans en Alsace, en France. Et là, nous nous rencontrons avec tous les pasteurs qui viennent du monde entier et qui travaillent dans notre église. Et ça va, on a eu pour l'instant deux rencontres, donc c'est tout nouveau. Et j'espère qu'effectivement, nous allons pouvoir développer un peu plus de synergie avec les églises de migrants.
Alors, moi, je ne sais pas, je n'avais pas entendu parler de ces church, de ces Fresh X Church. Voilà, je n'avais pas entendu parler de cette expérience en Allemagne dont vous venez de parler. Mais je n'ai jamais entendu parler non plus de Fresh Expression of Church en France. Alors, pourquoi en France, on n'en parle pas? Est-ce que vous avez une idée? Vous allez peut-être me dire que vous n'en savez rien, n'étant pas française, encore que vous avez travaillé en Alsace. Donc, vous devez connaître un peu la situation en France.
Alors, c'est une question que je me pose aussi. Il y a peut-être deux explications. La première, c'est que peut-être les Français ont francisé le nom, parce que tout ce qui est anglophone ne fait pas bonne figure dans la langue française, et je suis entièrement pour. En Allemagne, c'est terrible, ils parlent toujours en espèce d'allemand mélangé d'anglais, c'est très désagréable. Donc, peut-être que le nom a été francisé ou traduit et que je ne connais pas le nom qu'on utilise en France. Mais ça m'étonne aussi parce que je crois quand même qu'il y a un certain nombre de collègues qui sont allés voir en Angleterre ce qui se fait. Parce que c'est très connu, ce mouvement Fresh X est très connu en Europe et il y en a beaucoup qui s'en inspirent. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on cherche des collègues qui connaissent ce mouvement en Angleterre et qui l'ont traduit en français. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler, effectivement, en France.
Est-ce qu'il y a la barrière de la langue, selon vous? Et puis, autre possibilité, la laïcité à la française. Vous avez parlé de l'Alsace, vous avez travaillé en Alsace, mais l'Alsace est spécifique. Vous savez qu'il y a le Concordat, c'est pas du tout la même situation en Alsace et dans le reste de la France.
Alors, il est vrai que autant en Angleterre qu'en Allemagne, les religions ont beaucoup plus le droit de s'exprimer dans l'espace public. Ça ne pose pas de problème. Nous n'avons pas, par exemple, de polémique avec les sapins de Noël dans les mairies ou des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Nous n'avons pas de polémique sous le nom des vacances scolaires, comme vous en avez eu une là en début d'année. Et donc, nous pouvons aller dans l'espace public sans que ça pose problème. Bien sûr, comme toute manifestation, il faut les autorisations des autorités en place, mais elles sont données sans aucun problème. C'est juste une question d'organisation et que les autorités soient au courant qu'il y aura un rassemblement d'un certain nombre de personnes, mais sans plus. Et c'est vrai que cette Fresh X vit beaucoup d'explorer l'espace public, d'aller sur les places publiques, d'aller sur l'autoroute, comme vous dites. On a aussi des églises qui se vivent dans les campings. Alors ça, c'est un peu moins de place publique parce que les campings, ce sont des endroits privés, ce sont les campings qui accueillent des églises. Mais malgré tout, ça se fait aussi. En France, ça se fait beaucoup moins. Et donc, je pense que ça vous poserait plus… Enfin, d'une part, ça vous risque de vous poser plus de problèmes, mais d'autre part, ça demande plus de courage encore que ce qui se fait en Allemagne et en Angleterre. C'est fort possible. Ceci étant, par exemple, pour cette église de bazar, comme on l'appelle en français maintenant, vous et moi, ça se fait à l'intérieur des temples. Il n'y a pas besoin d'être dehors pour ça. Par conséquent, c'est quelque chose que vous pourriez parfaitement mettre en place en France.
Eh bien, nous avons fait un déplacement hors de nos préjugés français. Enfin, en tout cas, moi, pour le moment, je ne sais pas ce que les auditeurs vont en penser, mais j'ai trouvé ça très intéressant, ces expériences que je voyais effectivement dans les cultes de migrants, mais que je ne voyais pas dans des cultes occidentaux, luthéro-réformés. Et je suis vraiment ravie d'avoir eu ce témoignage. Alors, je vous remercie, Anne Le Père, et puis j'espère entendre parler encore de ces expériences, et puis je remercie nos auditeurs de leur fidélité. Alors, au revoir, Anne.
Au revoir, Yolande. Merci infiniment pour cet accueil. C'était un vrai plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
Eh bien, merci, et je remercie nos auditeurs pour leur fidélité. Alors, au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.